Bonjour, nous allons faire une lecture dans Hébreux chapitre 6, versets 13 à 20. Hébreux 6, 13 à 20. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même et il dit: je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment entre eux est une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse de manière encore plus claire que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement, de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous, en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Amen. Notre Dieu est grand, mes frères et sœurs, et il connaît nos faiblesses. Il connaît aussi la fragilité de notre environnement. Rien n'est sûr. Les choses change continuellement. Tout semble aller bien et voilà qu'une tempête fait rage et on est dans la détresse. Alors, Dieu, nous le savons, a agi en notre faveur, il a pourvu à notre salut, à notre protection, à notre guérison. Il l'a fait parfaitement, il a payé le prix fort et il a fait encore plus. Il s'est engagé doublement, de façon irrévocable. Pourquoi est-il écrit doublement? Un engagement double. Pourquoi? Mais regardons un peu comment les choses se sont passées. Parce que là, il nous parle d'Abraham et d'un serment que Dieu a fait à Abraham. En Genèse 17, verset 19, Dieu promet à Abraham un fils. Il promet qu'il aura un fils du nom de Isaac et qu'il établira une alliance perpétuelle avec ce fils et pour donc la postérité de ce fils. Mes frères et sœurs, nous savons que tout est possible à Dieu. Abraham savait aussi que tout est possible à Dieu. Cependant, il lui est impossible de mentir. Il ne peut pas nous mentir dans sa promesse, quand il fait une promesse seul comme ça, mais il ne peut pas mentir non plus si sa promesse est accompagnée d'un serment. Il n'avait pas besoin de faire un serment. Si Dieu promet une chose, il ne peut pas mentir. Pourquoi fait-il un serment? Il promet, et s'il fait un serment, mes frères et sœurs, c'est par condescendance envers Abraham. La promesse, elle est donnée en Genèse 17-19. Au chapitre 22, Dieu met Abraham à l'épreuve. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste. L'horreur. Et alors, et la promesse? Et la promesse d'une postérité d'Isaac, c'est quoi alors? Dieu ne ment pas. Mais Abraham est vulnérable, comme nous d'ailleurs, nous le sommes aussi. Nous avons la promesse, elle est vraie. Et la mise à l'épreuve arrive. Et je prie par exemple pour les malades depuis 1968 et des centaines de personnes ont été guéries miraculeusement, et tout ça selon la promesse. Et voilà l'épreuve. Mon épouse et moi, alors que nous étions jeunes mariés, nous perdons notre fils, notre unique, celui que nous aimions. Est-ce que Dieu ment ? Non, mes frères et sœurs. Mais pourquoi il n'a pas répondu à notre prière ? Comment comprendre ça ? Alors nous avons pensé comme Abraham. Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, et qu'il pensa qu'il allait retrouver son fils Isaac dans une sorte de préfiguration de résurrection. Je l'invente pas. C'est dans Hébreux 11, 18, 19. Alors que fait le chrétien ? Que fait le disciple de Jésus-Christ ? Il croit aux promesses que Dieu a faites ? Même si les évidences nous choquent, même si les évidences nous montrent que la promesse ne semble pas avoir été tenue. Alors, c'est pourquoi quand Dieu refait une promesse à Abraham, par condescendance envers Abraham, il ajoute un serment à sa promesse. J'emploie un mot fort, le mot condescendance. Il y a plusieurs significations. Quelques-unes sont un peu négatives, mais il y en a une que j'aime beaucoup dans la signification du mot condescendance. Condescendre, c'est se mettre au niveau de. C'est se mettre à la place d'Abraham. Abraham, il se dit, Dieu, j'ai fait une promesse d'un fils, et puis ensuite, je lui demande d'offrir son fils en sacrifice. Voilà, maintenant, si j'ai fait une nouvelle promesse, il va avoir peur. Alors, il consent à s'abaisser, à dire, à faire une chose. Ça, c'est dans le Larousse. Consentir, condescendant, c'est consentir à s'abaisser, à dire, à faire quelque chose. Alors, à venir à notre niveau. Notre père savait qu'Abraham avait été marqué par l'épreuve de Morija. Et alors, là, ben, il s'abaisse à faire un serment, comme les hommes, pour renforcer sa promesse. Abraham, comme nous, savons que Dieu ne ment pas. S'il fait une promesse, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais ayant été bousculé dans la vie, mis à l'épreuve, ça fait du bien que Dieu s'abaisse à notre niveau et fasse en plus de la promesse un serment. Et voilà Dieu qui juge par lui-même. Parce là, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut imprimer vivement dans notre âme le sentiment de sa grandeur, de sa puissance, de sa sainteté. Et ça, c'est l'inébranlable fondement de notre foi, de notre espérance. Jésus s'est abaissé jusqu'à nous, il a promis, et en plus il fait le serment. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu s'est engagé doublement, de façon irrévocable. Et c'est ainsi que nous avons un puissant encouragement, mes frères et sœurs. Ça y est, nous avons trouvé notre refuge. Comment ? En retenant fermement la ferme espérance qui nous a été proposée, promise. Ô Dieu, ta parole est dans nos cœurs et l'espérance que donnent les Saintes Écritures, c'est le lien qui va de notre cœur jusque derrière le voile, dans le sanctuaire céleste, derrière le voile, dans le lieu très saint, dans le temple céleste. Jésus est entré le premier avec son sang, en offrant son sang pour nous. Il a été notre précurseur parce que maintenant nous pouvons avoir la possibilité d'entrer dans cet endroit et il a accroché l'ancre là, derrière le voile. Vous savez, quand on jette l'ancre depuis un bateau, alors le bateau est en sécurité. En surface, il peut y avoir la tempête, ça peut secouer le bateau, mais le bateau, il n'ira pas plus loin que ne lui permet l'ancre qui est fixée au fond. Ballotté, mais il n'est pas en danger. Et quand il n'y a pas de tempête, ben le bateau qui est ancré ne peut pas partir à la dérive. Parce que vous savez, même quand il n'y a pas de tempête, l'eau, ça bouge, le vent, doucement, voilà, et l'air de rien, eh bien, on s'éloigne de l'endroit, de la position que nous avons, et puis on dérive sans s'en rendre compte. Tout ça, c'est dans la douceur. C'est aussi dangereux, les moments de calme. L'ancre que Jésus a accrochée, elle est solide, mais sa solidité n'est pas suffisante. Même une ancre solide, si elle n'est pas fixée au bon endroit, ça ne sera pas utile. Or, l'ancre de notre espérance chrétienne, elle est sûre et ferme parce qu'elle nous tient attachés à la demeure même de Dieu. Elle est accrochée au siège de l'immuable fidélité de Dieu. Il n'y a pas d'autre ancre dans toute l'Écriture sainte. Il n'y en a pas d'autre. Aucune ancre qui soit l'emblème de notre espérance. Il n'y a que celle-là. Notre ancre, elle n'est pas humaine. Elle n'est pas accrochée au fond. Non, notre ancre est divine. Elle est accrochée en haut. Derrière le voile, dans le temple saint de Dieu. Jésus a été fait souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Aucune force d'opposition ne viendra à bout de notre espérance ancrée dans le temple céleste. Si vous avez votre espérance ancrée derrière le voile, il n'y a rien qui pourra venir à bout de cela. Alors, Dieu sait qu'on vit dans un monde où tout change. Les amis d'aujourd'hui seront peut-être les ennemis de demain, ou ils seront morts. Enfin, Dieu sait qu'il est dans la nature de toute chose, de dériver, c'est jamais comme avant. Et c'est pourquoi une personne qui détient les Saintes Écritures dans son cœur sera au bénéfice de l'amour divin, de l'encre divine scellée dans la vérité. Et plus vous en connaissez, plus vous êtes solide. Comment les Écritures sont-elles dans votre cœur? Juste posées sur le sable de l'orgueil? Ou juste frôlant à peine la surface de vos convictions? Alors, Dieu envoie ses serviteurs afin qu'ils excitent votre âme à l'amour des Écritures. Et Jésus est le roc sur lequel nous sommes fondés et accrochés. Jésus est dans le temple céleste, plaidant notre faveur. Gardez la communion d'esprit avec lui qui est dans les cieux. Mais gardez aussi la communion d'esprit avec lui qui vit dans le cœur de vos frères et sœurs. Si vous demeurez dans sa parole, il demeurera en vous. Et il y a des personnes qui sont sentimentales avec Dieu, sentimentales avec les frères et sœurs. Il n'y a pas une ancre solide. Il y a des promesses et il y a des serments divins, double engagement. Pourquoi ne pas comprendre cela et être solide? La tempête qui peut s'abattre sur vous ne vous tuera jamais spirituellement, jamais, jamais. Elle ne pourra pas avoir de pouvoir sur vous, elle pourra pas vous entraîner vers le fond, elle pourra pas vous entraîner dans le gouffre de la misère, elle ne pourra pas vous faire chavirer dans les ténèbres d'un malheur sans fin. Pourquoi? Parce qu'il y a le roc sur lequel vous êtes attaché. C'est une fondation sûre. Frères et sœurs, Jésus nous garantit la stabilité, Jésus nous garantit la sécurité. Et il ne dit pas qu'il n'y aura pas des secousses, mais ça sera quand même stable et vous n'allez pas couler et vous avez la sécurité. L'ancre qui est derrière le voile du temple céleste nous empêche de dériver vers les dangers et vers les malheurs. Le message de Dieu nous garde à la sécurité dans le havre de notre Père céleste. Nous sommes rattachés à lui. Jésus est notre sauveur. Jésus est notre guérisseur. Jésus est notre protecteur. Il est celui qui pourvoit. Et même si nous mourons, la mort m'est un gain. De quoi est-ce qu'on aurait peur? Alors, il est souverain sacrificateur. Et nous, nous sommes des sacrificateurs, des prêtres, dotés de pouvoir. Nous pouvons agir en son nom. Si vous demeurez dans ma parole, vous avez le pouvoir. Le nom qu'on porte montre à qui nous sommes attachés. Quel nom portez-vous? Êtes-vous chrétien? Oui, je suis catholique. Oui, je suis protestant. Oui, je suis pentecôtiste. Oui, je suis branhamiste. Oui, je suis méthodiste. Oui, c'est à ce nom-là que vous êtes attaché. À ces noms-là, Apocalypse dit que c'est des noms de blasphème. Le nom que nous portons montre à qui nous sommes attachés, à aucun autre nom que celui de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'auteur de notre salut. Ayons confiance, relevons la tête et agissons paisiblement en conséquence de notre savoir. Seigneur, merci parce que tu as permis que je puisse annoncer ces choses à mes frères et sœurs. Et je te prie que maintenant, sachant ces choses, ils agissent avec fermeté, sachant qu'il n'y a aucun risque, que la mer soit calme, pas de dérive possible, que la mer soit agitée, pas de naufrage possible. Merci Seigneur de rappeler cela à chacun. Merci Seigneur de fortifier chacun par ces quelques mots, et de permettre que tous puissent passer cette vie sur cette terre en se comportant de façon à ce que ton nom soit glorifié. En tout point, dans toutes les difficultés, dans tous les moments de détente, dans tous les moments de notre vie, je te le demande, Père, fortifie chacun dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir.